2018, l'envie d'entrepreneuriat se faisait de plus en plus forte. Et donc, j'ai réfléchi à quelque chose que je pouvais tester en parallèle de mon activité professionnelle. J'ai commencé à lancer d'abord un blog et des réseaux sociaux, et ça s'appelait The Pâtisserie à l'époque. Que je vais aller goûter au gré de mes découvertes, de mes balades dans Paris, goûter une, deux, trois pâtisseries dans un quartier. Et si je trouve qu'il y a une certaine cohérence, et si j'arrive à trouver des pâtisseries qui sont à une distance atteignable à pied dans un même quartier, bah là je construis un parcours. Je fais des recherches sur, essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi aussi on va être attiré par telle ou telle chose, en quoi notre cerveau aussi peut nous tromper. Parce que le goût, c'est pas inné en fait. Reconnaître une fraise, c'est parce qu'un jour on l'aura goûté. Je suis pas dans une logique de levée de fonds, parce que s'il y a un truc que j'ai retenu d'une formation, c'est que l'argent de mes clients est meilleur, je trouve. Et pour moi, la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut parler de ses idées. Il faut en parler tout le temps. Il ne faut pas avoir peur qu'on nous les pique.
Bonjour, je suis Fatima. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Connaissez-vous le concept de la pâtissologie? Eh bien, de la même manière que la découverte des vins, l'œnologie, la pâtissologie permet de découvrir la pâtisserie à travers nos cinq sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. À l'origine de ce concept, Marion Thilou. Ancienne ingénieure, elle décide en 2019 de profiter d'un plan social pour quitter son job afin de se lancer dans l'entrepreneuriat. Marion est une grande passionnée de la pâtisserie. En 2018, elle a créé son blog The Pâtisserie avec un Z, dans lequel elle partage ses coups de cœur de pâtissier et de pâtisserie. En 2019, elle met de côté son blog pour lancer son concept de pâtissologie avec Honoré vous guide. Le principe, faire découvrir aux amateurs du sucré des pépites dans la capitale parisienne, loin des pâtisseries et des pâtissiers devenus des stars. Marion profite du confinement et de l'été 2020 pour élaborer son business plan et faire évoluer sa cible. Elle travaille alors sur ses parcours, réalise une formation dans la pâtisserie et écrit un livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau » avec le chef pâtissier Mathieu Dalmé, son partenaire depuis le début sur son projet. Je vous invite dans cette interview à découvrir les coulisses de la création du concept de Marion, celui de la pâtissologie, un épisode dans lequel vous allez apprendre comment il est possible de transmettre des émotions à travers un livre et des parcours, des émotions qui passent par nos cinq sens, que l'on oublie parfois de mettre en éveil. À travers cette interview, vous allez également apprendre comment Marion a dû s'adapter lors de la période de confinement, compliquée quand notre projet n'est pas digital mais physique. Et avant de laisser place à Marion, je vais vous demander de bien vouloir prendre une minute, s'il vous plaît, pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Fatima.
Alors, tu es la fondatrice de Honoré vous guide. Tu es guide en pâtissologie. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est. En tout cas, moi, c'est un thème qui me parle parce que je suis une grande fan de pâtisserie. Et je pense qu'on va passer un bon et beau moment. Et pour commencer, donc avant de rentrer un peu plus dans les détails, est-ce que tu pourrais te présenter, nous faire un petit flashback sur ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat?
Oui, tout à fait. Ben, enchantée. Merci de me recevoir sur ton podcast. Du coup, je m'appelle Marion Thilou. J'ai 44 ans depuis peu. J'ai deux enfants. Je suis mariée. Je suis originaire de la région Lorraine. Ça compte beaucoup pour moi, cette région. Mais malheureusement, je n'y vis plus depuis une bonne dizaine d'années. Je suis en région parisienne. Dans les Yvelines, et ce qui tombe bien puisqu'aujourd'hui, comme tu disais, je propose des parcours de dégustation d'idées, des circuits gastronomiques en fait autour de la pâtisserie et du concept de la pâtissologie. J'ai toujours été gourmande depuis vraiment toute petite. C'est un peu un cliché, mais c'est vraiment la réalité. J'ai toujours aimé les gâteaux. Je suis un vrai bec sucré. Je préfère 100 fois manger un gâteau que de manger une entrée. Donc ça vient vraiment de voilà, ça vient vraiment depuis longtemps. Et en fait, moi à la base, je suis pas du tout dans ce domaine-là. J'ai fait des études scientifiques. Je suis ingénieure en chimie. enfin en génie chimique pour être précise. Et mes premiers jobs, enfin j'ai fait une carrière d'une quinzaine d'années, et notamment dans un grand groupe pétrolier qui s'appelle Shell, en tant que d'abord commerciale, puis directrice marketing dans différents business.
Voilà. D'accord, donc un monde qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui.
Rien du tout.
Donc, tu as travaillé pendant combien de temps dans la chimie?
Alors, du coup, dans le pétrole pendant 13 ans.
Pendant 13 ans, d'accord.
Oui, mais jamais dans des fonctions techniques, vraiment toujours dans des fonctions sales ou marketing.
D'accord.
Parce que j'ai toujours aimé la relation avec les gens, en fait. C'est ça qui a fait qu'à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai voulu bifurquer plutôt vers du commerce. Et voilà. Et en 2018, l'envie d'entrepreneuriat se faisait de plus en plus forte. Et donc, j'ai réfléchi à quelque chose que je pouvais tester en parallèle de mon activité professionnelle. Et j'ai commencé... en fait, l'idée m'est venue en écoutant un podcast.
D'accord, oui, parce que j'allais te poser la question, comment était venue l'idée de créer ces parcours sur la pâtisserie. Donc, c'est en écoutant un podcast.
Ça a pris un peu de temps. En fait, c'est le podcast qui m'a donné l'idée du domaine dans lequel je voulais tester quelque chose. Donc, c'était le podcast Génération XX que tu connais sûrement.
Ouais, je connais, ouais.
Voilà, qui a inspiré pas mal de gens et qui mettait en lumière des femmes. Mmh. Et en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'il manque quelque chose pour indiquer aux gens comment trouver des bonnes pâtisseries. Et souvent, moi, je me balade dans Paris, j'ai envie d'une pâtisserie, je ne sais pas forcément où aller, hormis si en amont, j'ai recherché sur Instagram, sur Google, sur plein de plateformes possibles. Et souvent, on retombe un peu toujours sur les mêmes, alors que dans chaque quartier, il y a de très bonnes pâtisseries qui ne sont pas forcément sous les feux de la rampe, qui ne se passent pas à la télé, qui ne sont pas fans de réseaux sociaux, donc qui n'animent pas tout ça. Et voilà, je me suis dit, il fallait trouver une solution pour les gens comme moi qui ne trouvaient pas. Et il y a un moment, j'aime beaucoup Pierre Hermé, Yann Couvreur, etc. Mmh. Mais il y en a plein d'autres. Et
ouais,
je trouvais
ça
vraiment dommage. Mmh. Donc voilà, j'ai commencé à lancer d'abord un blog et des réseaux sociaux. Et ça s'appelait The Pâtisserie à l'époque, avec un Z. Alors le blog existe toujours, thepâtisserie.fr, mais il n'y a plus grand-chose dessus.
Oui, je suis tombée dessus, j'ai vu.
Voilà. Et on tombe encore dessus. Donc, il y a encore un petit peu de trafic sur ce site. Et en fait, je racontais ce que j'avais goûté, ce que j'avais aimé, et voilà. Et en 2019, j'ai été dans une énième réorganisation au sein de l'entreprise. Et là, j'avais déjà fait, on va dire, 50% du chemin dans ma tête de partir.
Ouais.
J'ai vu beaucoup de mes collègues partir avec des plans sociaux, etc., dans de bonnes conditions. Et je me suis dit, ben voilà, quand on m'a indiqué ce changement, j'ai levé la main pour partir. Et
d'accord.
Voilà.
Donc, tu avais déjà en tête l'envie de partir, de faire autre chose, mais
oui.
Déjà dans l'entrepreneuriat.
Oui.
Mais tu ne savais pas encore quoi, et puis tu l'as découvert à travers le podcast. Et,
exactement. Ouais.
En parallèle du boulot, donc tu as lancé le blog.
Oui, voilà. De avril 2018, enfin à partir d'avril 2018, j'ai lancé The Pâtisserie sur Instagram, sur Facebook et le blog. Et ensuite, c'est devenu Honoré vous guide. Mais ça, c'est arrivé, du coup, en juillet 2019, j'ai pris la décision de partir.
Ouais.
Ça prend toujours un peu de temps dans les grandes sociétés, quand c'est un plan social, etc. Il y a beaucoup de consultations, il y a beaucoup d'administratifs, en fait.
Mmh.
Et véritablement, je suis partie le 31 mars 2020. Et donc,
ah oui.
Tu sais ce qui s'est passé entre
oui.
les deux.
Ouais. Donc oui, c'est sûr. Mais bon, on va revenir là-dessus parce qu'effectivement, là, il a fallu s'adapter. Hein,
oui.
À ça. Tu disais que tu étais une grande passionnée de pâtisserie. Ça te vient d'où, cette passion?
En fait, moi, j'ai vécu quelques années chez mes grands-parents. Et ma grand-mère, ce n'est pas une grande pâtissière, mais elle faisait des trucs que j'aimais bien. Elle faisait des gâteaux. Et même mes deux grands-mères, en fait, faisaient des trucs ultra simples, mais j'aimais assez faire ça avec elles. Et goûter la pâte crue. Et j'ai toujours aimé, du coup, déguster les gâteaux. Donc, ça vient indirectement de ça, quoi, d'avoir un petit peu traîné avec elle. C'est pas quelqu'un qui faisait énormément de gâteaux, des trucs hyper perfectionnés, mais ça revenait souvent. Et dans son jardin, il y avait un mirabellier, donc c'était
ouais.
à Metz. Et du coup, voilà, la tarte à la mirabelle, c'est vraiment le truc qui me relie à ce démarrage. Finalement, si je dois vraiment chercher l'origine, ça doit venir de là, quoi.
D'accord, des souvenirs d'enfance qui ont remonté et du coup, Du coup, ça t'a donné aussi l'envie après de partir vers cette voie-là, quoi. Ça t'a aidé quelque part.
Ouais. Et puis, finalement, en grandissant, j'ai toujours aimé faire des gâteaux, amener des gâteaux, tester des choses. Et naturellement, j'allais vers, tiens, je vais faire un nouveau type de gâteau. Et jamais je me suis dit, tiens, je vais faire un nouveau type de blanquette. Typiquement. Donc, j'allais vraiment vers le sucre, toujours. Je bois pas de vin. Je bois pas trop d'alcool, mais du coup ma dose de sucre elle est plus du côté solide, on va dire.
D'accord. Et tu fais beaucoup de pâtisserie toi-même?
Oui, alors du coup j'en fais périodiquement, mais j'ai toujours fait de la pâtisserie là vraiment depuis longtemps. Et quand j'étais étudiante, enfin voilà, j'avais un mini four vraiment pour pouvoir faire des gâteaux, des cookies, ce genre de choses. Et quand j'ai entamé ma reconversion, quand j'ai pris la décision de partir de Shell, je me suis inscrite au CAP en candidat libre en novembre 2019. Et donc j'ai eu mon CAP en 2020.
D'accord, donc tu as fait un CAP pâtisserie.
Pâtissier. Ouais.
Au pâtissier, pardon, du coup. Est-ce que c'était complémentaire pour toi par rapport au parcours que tu voulais proposer? C'était indispensable de passer par là?
C'était pas forcément indispensable. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui me l'avaient déconseillé en me disant « Oui, mais tu vas perdre ton temps, c'est un gros investissement, tu veux pas monter une pâtisserie, quel est l'intérêt ?» etc. Mais moi, j'en avais très envie pour avoir avoir de la légitimité vis-à-vis des pâtissiers avec lesquels je discute, savoir de quoi je parle. Et en fait, ce qui a vraiment déclenché, c'est que 2019, c'était la dernière année des inscriptions pour les candidats libres sans stage obligatoire. Et à partir de la promo du coup 2021, avant de s'inscrire au CAP, il fallait prétendre avoir fait 2 stages de 7 semaines. Et ça, je savais que je n'arriverais pas à le faire.
Ah oui, d'accord.
Donc vraiment, ça s'est fait sur un coup de tête. D'ailleurs, c'est rigolo parce que c'était au Salon du Chocolat de 2019, je croise un ancien candidat du meilleur pâtissier avec qui je suis amie et qui me dit « Ah, mais tu sais pas, le CAP est réformé, c'est la dernière année si tu veux pas faire de stage. » Et donc, je suis rentrée, je me suis inscrite. Et après, je me suis demandé comment j'allais faire pour le préparer. Mais comme c'est un diplôme d'État, c'est gratuit, l'inscription. Donc, je me suis dit « On verra bien. Ouais. » Et au pire, j'indiquerai que je veux pas le passer finalement parce qu'on peut après coup les prévenir. Et voilà. Bon, après, ça a été un petit peu modifié vu qu'il y a eu le Covid. J'ai pas passé d'épreuve pratique et je l'ai eu sur dossier scolaire.
D'accord, très bien.
Voilà.
Et quand tu décides de passer ce CAP, en parallèle, donc avant de quitter, est-ce que tu avais avant de quitter ton job, donc comme tu avais déjà cette idée en tête, tu as commencé à construire justement tes parcours autour des découvertes des pâtisseries?
Non, ça arrivait beaucoup plus tard. C'est en fait, donc mars 2020, je quitte la société, on est en plein confinement. Il y a plein d'autres choses en fait à gérer. Ce premier confinement, il a quand même un peu bouleversé tout le monde. On ne savait pas combien de temps ça allait durer. On était en mode crise, hein, quand même.
Ouais.
Donc, il y a eu un espèce de moment de flottement où je travaillais, j'appelais des gens, mais c'était pas structuré. Et en juin 2020, on s'est vraiment structuré avec mes associés, qui sont des associés plus de type conseiller qu'associés. Ils sont pas opérationnels. Je suis toute seule avec des stagiaires et des apprentis, mais eux sont pas opérationnels dans la société. Et on a travaillé sur vraiment le business model, on a vraiment tout remis à plat du point de vue du B2B, du B2C, en se disant, bon, vraiment, comment on va proposer ça sur le marché, ce nouveau concept. Et c'est là que les parcours sont arrivés, c'est là que la pâtissologie est née aussi. C'est vraiment en brainstormant, on va faire des parcours, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus que simplement une liste d'adresses? Aujourd'hui, mon premier concurrent, c'est Google, en fait. Hein. C'est les gens qui vont regarder dans Google trouver des noms de pâtisseries. Moi, faut que je leur apporte autre chose que simplement les promener de A à B, quoi. Donc là, l'idée est venue de dire comment moi, je déguste des pâtisseries. Et c'est là qu'est née la pâtissologie en faisant le parallèle avec l'œnologie pour le vin.
D'accord. Simplement. Le confinement a permis, en fait, de construire et de structurer le projet. En fait.
On l'aurait fait même si on n'avait pas été confinés.
Quand même. Mais...
Voilà. C'était prévu.
Et du coup, très bien.
Voilà.
Et ça vous a pas justement le fait de cette crise sanitaire, de ce confinement, donc ça vous a pas freiné dans le fait de vouloir faire quand même des parcours
Si, 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 clairement.
Ça entre en jeu aussi, ça change quand même pas mal de choses.
Ça m'a privé d'un segment de clientèle énorme qui était les touristes.
Oui.
Bah, oui. Donc il a fallu aller chercher les locaux, oui. Qui était quand même une de mes cibles prioritaires. Mais on perdait les touristes, on perdait les entreprises.
Oui.
Donc voilà.
Donc c'est un morceau quand même.
Ouais, qui est un morceau assez important. Mais en fait, ça, tu vois, on parlait d'adaptation, de choses comme ça. Oui. Quand il y a eu le deuxième, en fait, entre les deux confinements, il y a eu l'été, deux premiers. J'ai fait mes premiers parcours. Ça m'a permis de tester pas mal de choses. Et clairement, les premiers parcours, je les ai fait surtout avec des amis d'amis, des gens qui voulaient venir tester. Enfin voilà, c'était plus des gens qui voulaient me donner des coups de main. Et j'avais même pas créé l'entreprise encore. J'étais en mon nom sur Airbnb Experience.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc c'était pas du tout.
Il y avait déjà quand même quelque part une demande, enfin,
Oui.
Ça intéressait en tout cas les...
Oui, oui, parce que ce concept existe sur Airbnb, de food tour, etc. Donc je me suis mis là-dedans, j'ai fait quelques tests, j'ai eu quelques clients autres que mes amis.
Ouais.
Et puis on a progressé au fur et à mesure comme ça. Après, boum, deuxième confinement en octobre. Là, plus possible de faire de parcours. Et donc, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut continuer de parler d'Honoré, qui n'était toujours pas créé légalement, on va dire. J'avais vu que pendant le premier confinement, ce qui avait cartonné, c'était les cours de pâtisserie
en live aussi.
Ouais, voilà. J'en ai parlé avec Mathieu Dalmé, qui est le pâtissier avec lequel j'ai écrit le livre. On en parlera peut-être après. Et on se voit, je lui parle de mon projet et je lui dis, ouais, tu voudrais pas qu'on fasse des cours de pâtisserie en ligne? Je dis, allez, vas-y. Et en deux semaines, j'ai trouvé un truc pour le faire. Et les premiers, on les a fait gratuits. C'est-à-dire que, voilà, on a eu une soixantaine de personnes qui se sont connectées pour apprendre à faire un marbré. Et puis moi, je venais avec ma petite webcam et mon téléphone. C'était vraiment de la bidouille. Et puis après, on s'est un petit peu organisé. On a commencé à faire payer les cours. Ça a tenu jusqu'en, on va dire, juillet 2021.
Oui.
Non, même, pardon, décembre 2021. Et puis après, c'est pas mon cœur de métier. C'était vraiment une façon de faire connaître la société. Oui. Il y a des gens qui font ça de manière très professionnelle. Ça prenait beaucoup de temps. C'était pas du tout rentable. Donc, on a dit, bon, pour le moment, on arrête. Mais par contre, on se ferme pas la porte sur des ateliers. Moi, je fais des ateliers de dégustation déjà. Ça, c'est fait. Et peut-être des cours en présentiel. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que les gens, après 2 ans derrière leur écran,
ils avaient envie
de contact de nouveau. Voilà.
Donc, c'était un moment un peu particulier. Donc, il fallait effectivement continuer et pas, comme tu dis, donc faire connaître l'entreprise. C'était l'occasion d'en faire parler, en fait.
Voilà. Puis rien lâcher. Et pendant ce deuxième confinement, c'est là aussi que j'ai eu l'idée du livre, du coup. Aussi en écoutant un podcast.
D'accord. avant de parler du livre, du coup, je voulais savoir un peu justement comment vous, parce que vous étiez plusieurs à travailler sur le parcours, comment vous les concevez, du coup, les parcours, comment vous les avez imaginés?
Alors ça, c'est vraiment moi qui les conçois, et ça ne part jamais du lieu, ça part toujours des pâtisseries. C'est-à-dire que je vais aller goûter au gré de mes découvertes, de mes balades dans Paris. Je vais goûter 1, 2, 3 pâtisseries dans un quartier. Et si je trouve qu'il y a une certaine cohérence et si j'arrive à trouver des pâtisseries qui sont à une distance atteignable à pied dans un même quartier, bah là, je construis un parcours. Et en plus, il en faut quand même plus que 3. Généralement, j'ai un set de 5-6 adresses par quartier parce qu'il y a les différences de... Enfin, il y a les problèmes d'horaire, d'ouverture, de... Voilà, il faut qu'il y ait une variété pour que je puisse mettre 3 étapes dans mes parcours. Mais ça part toujours du gâteau que j'ai goûté. Et après, j'adapte le contenu, on va dire, du quartier.
D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait des thèmes aussi. Il y avait des thèmes autour du chocolat, de la tarte.
Oui, alors ça a un petit peu changé parce qu'il y a plein de gens qui me disaient que c'était trop compliqué de se décider.
Ouais.
Et voilà, donc aujourd'hui, on n'a plus. Alors, on a la viennoiserie qui est à part, parce que c'est les seuls parcours qui sont le matin. Et ensuite, on a les parcours qui sont aujourd'hui Montmartre et le Marais. Et au moment de réserver, je propose aux gens soit de garder la surprise de ce qu'ils ont dégusté, soit de choisir le chocolat, soit les fruits, par exemple, si vraiment il y a quelque chose qu'ils préfèrent. Mais en général, hormis certaines choses où il faut réserver, je laisse choisir.
D'accord.
Dans l'offre, voilà.
Donc, ils choisissent et puis ensuite, ou c'est la surprise. Ouais. Et ensuite, ils viennent le jour J et tu leur fais faire le parcours.
Voilà, exactement. Donc, on se retrouve à un point de rendez-vous. Mmh. Et ensuite, pendant 2 heures, on se balade d'une pâtisserie à l'autre. Il y a 3 pâtisseries. Quand le chef est dispo, etc., il y a souvent une discussion avec le chef. Parfois, quand il a vraiment du temps, on va au labo. Enfin, voilà. Ça dépend un peu des chefs. Ça dépend aussi du moment. Mmh. Quand on est en période de fête, par exemple, Noël ou Pâques, etc., là, c'est pas possible. Ils sont vraiment dans le jus. Donc, mais par contre, moi, j'explique vraiment au début du parcours et à chaque fois, en quoi les 5 sens doivent être utilisés pour déguster les pâtisseries. Et ça passe déjà par la vitrine quand on arrive. Voilà, tout ça, j'essaye de faire cette démarche-là. Et tout en restant assez subtil, je ne veux pas non plus qu'on passe notre temps à analyser trop en profondeur et qu'on oublie en fait que c'est aussi un moment ludique, sympa, qu'on passe comme ça pendant une après-midi. Voilà, c'est la balance. Et puis j'adapte aussi en fonction des gens. Il y a des gens qui sont très techniques, qui me posent plein de questions. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de la tarte comme ci, comme ça? Et d'autres personnes qui ont juste envie de manger des gâteaux, donc, dont j'adapte. Mais j'essaye de garder le fil conducteur des 5 sens en leur rappelant, est-ce que là, vous avez senti quelque chose de particulier? Est-ce que la texture, vous l'avez trouvée suffisamment croustillante? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est un peu le fil conducteur.
D'accord, oui, c'est justement le concept que tu as appelé pâtissologie, que tu as... Vous avez inventé.
L'art et de déposé.
Et déposé, en plus, oui, et déposé.
Tout à fait.
L'art de la dégustation de pâtisserie à travers le prisme des 5 sens. Donc, parce que les pâtisseries, évidemment, ouais, ça nous éveille tous les sens. Certains, ça va leur rappeler certains souvenirs d'enfance. D'autres,
tout le monde.
Tout le monde en général.
Oui. Ouais, tout le monde. Et puis l'exemple numéro 1, c'est Marcel Proust, sa fameuse Madeleine, qui va lui rappeler énormément de sensations. Tout le monde a un souvenir d'enfance, et ce qui est rigolo, c'est que c'est rarement la vue qui va nous rappeler. C'est au moment où on le goûte, c'est l'odeur, c'est la texture qui vont rappeler des choses. Et donc c'est vraiment parti de le livre est parti de ça. De ce postulat, de toutes les sensations. Et après, j'ai fait des recherches sur essayer de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi aussi on va être attiré par telle ou telle chose, en quoi notre cerveau aussi peut nous tromper. Il y a une très bonne expo en ce moment, je ne sais pas quand tu diffuseras cet épisode, mais je crois que ça dure jusqu'en août. Il y a l'exposition Banquet à la Cité des Sciences à Paris, qui vraiment permet de s'amuser avec ça. Et voilà, si demain je te fais goûter une madeleine rose ou rouge, il y a de fortes chances que ton cerveau te trompe et te dise que c'est une madeleine à la framboise, à la fraise, alors que j'aurais mis un tout autre ingrédient à l'intérieur. C'est juste parce que notre cerveau nous conditionne sur plein de choses. Donc il y a ces aspects-là que j'ai un peu creusés. Il y a aussi le côté croustillant. Les choses qui font du bruit, ça vient aussi de notre cerveau primitif qui sait que quand ça fait du bruit, quand c'est croquant, ça veut dire que c'est frais ou que c'est cuit. Donc, c'était assez amusant aussi d'essayer de trouver pourquoi notre cerveau nous rappelle des choses, pourquoi une odeur, en fait, va nous rappeler un souvenir. C'est parce que le centre responsable des odeurs, il est à côté du centre des émotions. Et c'est pour ça que c'est très lié, en fait, on emmagasine. C'est aussi là que se trouve notre mémoire autobiographique. C'est-à-dire que tous nos souvenirs vont aller s'inscrire là, et ils vont être réveillés en fait par une odeur qu'on va percevoir. Quoi.
D'accord. Donc, voilà, c'est super intéressant. Donc vraiment, on a tous les sens en fait qui se mettent en action. La vue d'abord et puis après l'odeur.
L'odeur, le bruit.
Le
le toucher avec la texture et puis évidemment le goût, hein, tout ça c'est quand même très lié. Il faut quand même que ce soit bon, hein. Je suis pas en train de dire que ça peut être beau et pas bon. voilà, mais ben
oui.
En fait,
oui,
c'est un ensemble.
C'est le final en fait. Hein,
Ouais. Mais malheureusement, il y a un peu une dérive parfois dans la pâtisserie du beau au détriment du bon. Alors, il y a le cake design. Moi, j'ai rien contre, mais c'est assez rare que ce soit vraiment très bon. On va avoir
en
beaucoup
général,
de pâte à sucre.
C'est beau.
Voilà.
On a du mal à digérer, quoi.
Voilà, il y a quelques exceptions. Mais voilà, là, c'est vraiment... Et c'est aussi pour ça que je pense que ça, c'est pas tous les jours qu'on va manger un gâteau de cake design, justement, parce que c'est pour des occasions très particulières, un anniversaire, etc., où là, c'est vraiment le beau qu'on souhaite. Mais voilà, il faut toujours garder en tête que ce qui compte, c'est le goût, mais que le goût va être construit par plein d'autres choses, par la texture également, par l'odorat. Si tu goûtes... l'expérience qui est faite à Banquet et que moi je fais faire aussi, c'est de se boucher le nez, de manger une graine de coriandre, de la mâcher, toujours avec le nez bouché, on va rien sentir. Et si on débouche son nez, c'est impressionnant. Il faut vraiment faire l'expérience. J'invite les gens qui nous écoutent
à faire l'expérience.
À la faire. Une petite graine de coriandre dans la bouche. Et franchement, vous verrez la différence. C'est incroyable. Donc, les œnologues, c'est pas nouveau, hein. La rétro-olfaction, toutes les molécules qui passent par l'arrière de la bouche, dans le nez, etc. Les gens qui ont eu le Covid savent aussi que quand on perd l'odorat, on perd une partie du goût.
Tout est lié, en fait.
Ouais, c'est un ensemble. Et comme je te disais, ta vue va te perturber le message qui est envoyé au cerveau pour analyser le goût.
Ouais.
Parce que le goût, c'est pas inné, en fait. Reconnaître une fraise, c'est parce qu'un jour, on l'aura goûté. Et donc, on saura que c'est le goût de fraise. Mais si on n'a jamais goûté un goût de fraise, il n'y a rien dans notre cerveau qui est répertorié sur goût de fraise. C'est un mélange d'acidité, de sucre, de texture, de plein de choses, où là, notre cerveau va dire « Ah, ça, c'est une fraise. » Et elle est bonne ou elle n'est pas bonne.
Donc, oui, et ça se joue dès l'enfance, en fait. Dès qu'on est petit, c'est là qu'on enregistre... toutes les saveurs qu'on goûte pendant l'enfance.
Et même après, quelqu'un qui n'aura jamais... Je prends toujours l'exemple de la fève de tonka.
Ouais.
Parce que quelqu'un qui n'aura jamais goûté cette fève tonka, et c'est rare qu'on ait goûté ça quand on était enfant. Enfin, mes enfants, moi, ils ont goûté. Parce que j'en utilise souvent.
Tu les avais goûté, ouais.
Voilà. Mais c'est pas dans la palette classique, en fait.
Oui.
Et du coup, ça se construit, et les œnologues, les sommeliers, en fait, construisent à force de goûter des choses. C'est vraiment, on construit cette mémoire olfactive sensorielle, en fait. Ça ne s'arrête jamais, et c'est ça qui est assez chouette, en fait, hein, de découvrir des nouvelles choses.
Ouais, des nouveaux goûts. C'est super intéressant. Mais du coup, pour réaliser ces parcours-là, pour les construire, tu as dû, donc, j'imagine, mettre en place pas mal de partenariats avec les pâtisseries.
Oui. Alors, c'est des partenariats plus ou moins développés. Il y a des gens que je préviens simplement ou je réserve simplement. Puis, il y a des gens avec qui on a plus d'échanges, qui sont des vrais partenaires. Et puis, en fait, ça se construit petit à petit au fur et à mesure où ils me voient arriver. Régulièrement, ils se posent plus de questions. Certains me proposent des tarifs préférentiels. Mais moi, j'arrive pas en demandant ça. Pour le moment, j'essaye d'être assez profil bas, en fait. Et quand je pourrais leur apporter plus de volume, là, peut-être qu'on discutera de partenariats plus développés. Mais c'est souvent, finalement, il y a aussi les histoires de coups de cœur, c'est-à-dire des gens que j'ai rencontrés et que je trouve très chouettes et que j'ai aussi envie de mettre en avant leur travail.
Ouais.
Et chez des gens qui en ont, certains, je trouve, en ont plus besoin que d'autres aussi.
Ouais. Oui, parce qu'effectivement, donc on a vu tout un engouement, ça fait plusieurs années maintenant, autour de la pâtisserie. Hein, on a les émissions sur les pâtisseries. Et puis, il y en a même qui sont devenus des stars. Hein, on peut dire qu'il y a Armé, Cédric Grolet, donc il y en a plein. C'est vraiment ça. C'est vrai que dans Paris, on a des petites pâtisseries qui sont dans des petits
coins,
qui peuvent créer des pépites et forcément qui ont moins de visibilité que des plus grands qu'on voit régulièrement à la télé ou dans la presse. Bon, après, il y a des petites émissions sympas, mais bon, je pense que tout le monde n'y a pas accès, ou tout le monde ne regarde pas du style très très bon qui fait découvrir aussi ce genre de petites pépites. Mais à part ça, c'est vrai que bah, c'est plutôt rare et je trouve que l'idée du parcours est très bonne, en tout cas pour les amoureux de la pâtisserie, de découvrir des nouvelles choses hors des sentiers battus.
Oui, ouais, c'est un peu le but. Et c'est vrai qu'il y a bien souvent, il y a des gens qui me disent, mais jamais on serait venu là.
Ouais.
C'est tout seul, en fait. Hein. Ça les fait sortir. Même des Parisiens. On commence le parcours de Montmartre dans le 18e, dans un quartier qui n'est pas forcément ultra touristique. Et on va dans une petite boulangerie que j'aime, enfin, boulangerie-pâtisserie qui s'appelle la boulangerie du Square, que j'aime beaucoup. Où, ouais, c'est des gens qui sont passionnés. Moi, je suis un peu une groupie de chefs, hein, j'avoue. Hein. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration. J'en ai encore plus depuis que j'ai passé mon CAP. Parce que j'ai vu quelle complexité ça pouvait être de faire certaines choses. C'est des gens qui sont pas forcément... Enfin, il y a des stars maintenant, évidemment. On parle de Cédric Grolet, Pierre Armé, Cyril Lignac. Mais c'est pas la majorité du tout. Et c'est des gens qui sont dans leur labo, au sous-sol, qui prennent pas la lumière méritée, quoi.
Qui passent leur temps à tester de nouvelles choses et qui sont vraiment passionnés, en tout cas, de leur métier.
Et qui essayent de faire vraiment bon. Parce qu'en parallèle, il y a aussi des gens qui s'embêtent beaucoup moins et qui vont acheter des trucs industriels et qui vont pas le dire. Et... Voilà, j'essaye aussi d'alerter là-dessus. Trouver un fraisier en février dans une pâtisserie, c'est pas une bonne pâtisserie, en fait.
Il n'y a pas de fraises en février.
Ben non, voilà, les fraises, c'est là, c'est en mai, en juin. Et c'est des... Les artisans avec lesquels je travaille, ils mettent ça aussi en avant, le fait de suivre les saisons, de ne pas produire trop pour ne pas acheter le soir, que des pâtisseries, on les repasse pas la majorité d'entre elles ne repassent pas le lendemain. C'est-à-dire que c'est frais du jour. Donc ce qui n'est pas vendu va être jeté. Donc il faut essayer de... C'est normal de ne pas avoir 40 sortes de gâteaux dans une pâtisserie. S'il y en a 40 sortes,
c'est un problème.
Il y a quelque chose, en fait. Donc, et d'ailleurs, des grands noms comme Cédric Grolet ont des pénuries, en fait. On peut arriver parfois à 14h, il n'y a plus rien. Ouais. Mais en fait, c'est normal, sauf que le consommateur il est tellement habitué à claquer des doigts et à avoir tout le temps, qu'il y a une espèce de frustration. Donc, c'est compliqué parfois pour les commerçants de dire « Mais oui, mais les gens me demandent ça à 18h, ils veulent de la tarte aux fraises en février. Qu'est-ce que je fais ?» Je dis non, je me prive de certains clients, mais j'ai besoin de faire rentrer du chiffre d'affaires. Enfin, c'est un métier vraiment compliqué, comme tous les métiers de bouche, hein, mais bon, c'est celui que maintenant je connais le mieux, et donc ça me pousse encore plus à les aider.
D'accord. Et comment, justement, quand on parlait aussi de partenariat, j'imagine qu'on a aussi des partenariats pour te faire connaître, pour faire connaître les tours, les guides les parcours que tu proposes. Alors, comment tu t'y es pris là-dessus ?
Alors, il y a les réseaux sociaux,
ouais.
Que ça, je gère seule. Mais en fait, je pense que la bonne décision que j'ai prise, c'était en juillet de l'année dernière, de me faire accompagner par une attachée de presse.
D'accord, oui. La presse, ouais, ça aide bien.
Voilà. Parce qu'en fait, le B2C, il y a les réseaux sociaux, mais... ma clientèle, elle n'est pas forcément ultra connectée.
Oui.
Et donc, c'est des gens qui lisent la presse, qui écoutent la radio, qui regardent la télé. Donc, en fait, c'était le bon timing parce que le livre sortait en octobre. Et pour moi, c'était un outil de communication quand même, ce livre.
Oui.
Donc, l'idée, c'était de ne pas finalement louper ce moment fort que j'allais avoir à l'automne. Donc, c'est pour ça qu'à partir de juillet, j'ai pris les services d'une attachée de presse qui s'appelle Marion aussi. C'est un signe.
Oui.
On est plein de Marion dans l'équipe. Et ma stagiaire s'appelle Marion aussi. Donc.
Oui, que des Marion, le trio.
Que des Marion, exactement. Et voilà. Et du coup, ça m'a permis d'avancer, de construire une notoriété. De mieux ressortir dans Google, par exemple. Voilà, d'avoir de la radio. Là. Je suis passée sur Europe 1. Je suis passée, tu parlais de Très Très Bon. J'ai fait un petit passage sur Très Très Bon aussi. D'être dans des magazines. Et tout ça, ça fait que ça se construit, mais c'est long en fait. Hein, et moi, j'ai pas explosé sur les réseaux sociaux, je suis pas une influenceuse, j'ai pas 30 000 personnes qui me suivent, donc c'est un gros boulot.
Non, mais comme tu dis aussi, ouais, c'est quelque chose aussi. C'est là où est ta clientèle, c'est-à-dire qu'elle est plutôt télévision, presse, radio. Donc, effectivement, la presse, c'était quelque chose d'indispensable dans ton plan de communication.
Exactement. Et la radio, le fait de passer sur Europe 1 m'a amené énormément de business, vraiment. Énormément de clients. Puis après, moi, j'ai d'autres actions puisque j'ai d'autres. Il y a les parcours de dégustation, mais je fais aussi du team building pour les entreprises. Donc là, c'est beaucoup plus sur le bouche à oreille, sur les réseaux comme LinkedIn. La partie touriste, bon, les touristes reviennent. Donc je participe à des salons, je suis référencée à l'Office de tourisme de Paris.
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
Donc voilà.
Le tourisme, c'est aussi une façon de faire connaître auprès des touristes.
Mais après, clairement, c'est tu vois, on parlait tout à l'heure de rôle modèle, etc., et de femme entrepreneur. C'est pas simple, en fait, de se faire connaître quand on est sur le B2C, mais même sur le B2B, quand on n'est pas du milieu, en fait, hein, parce que chaque profession va avoir son petit milieu assez fermé. Moi, je bossais dans les travaux publics avant. J'ai eu l'impression, et j'étais au bout de 10 ans reconnue dans ce milieu-là, on savait. Hein, j'ai eu l'impression de tout recommencer à zéro pour me faire connaître dans le milieu de la pâtisserie, dans le milieu des critiques de pâtisserie, dans le milieu aussi de l'édition. On a l'impression, en fait, vraiment de repartir. Ouais, vraiment zéro. Et si je peux partager une expérience, quand on faisait des dédicaces de livres, je suis allée faire une dédicace dans un Cultura, pour le citer. Et là, grand moment de solitude. Mais moi, je suis personne, en fait. Personne ne me connaît. Tu vois ? Et pendant une demi-heure, tu es là à attendre. Il n'y a personne. Là, tu manges vraiment, tu retournes à zéro. Et à un moment, je dis, bon, c'est pas possible. Donc, je ne suis pas restée sur ma chaise. Je me suis mise dans le rayon pâtisserie avec mon livre. Et j'ai interpellé les gens. Vous connaissez la pâtissologie, hein. Et j'étais quand même fière de moi, j'ai vendu 7 livres en 2 heures.
C'est bien, en fait. T'as vendu ton propre livre. En fait.
Là, j'étais en mode
dans l'action, en fait.
Mais en fait, on est obligé tout le temps. Ouais. Et c'est quand même assez épuisant. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ce qu'on voit dans les médias, c'est toujours le truc... hyper glamour, j'ai levé 3 millions, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis super connue. Mais en fait, pour une personne, une femme qui arrive à faire ça, et heureusement, il y en a de plus en plus, mais c'est pas énorme, c'est toujours pas la majorité. Il y en a plein aussi qui galèrent dans leur coin à se faire connaître. Tu vois, là, on fait une campagne de financement participatif pour financer les parcours, digitaliser. On sort les rames, quoi. Quand même, je pense que c'est l'entrepreneuriat, c'est un mélange de je suis sur un roller coaster avec des rames, en fait. Tu vois ?
Ouais, je vois.
Tu vois le concept un peu. Donc,
oui, puis en plus, même ceux qui sont mis en avant, en général, on ne sait pas que juste avant, elles ont galéré aussi pendant plusieurs années avant d'en arriver là où elles sont, quoi. C'est juste
clairement.
On n'en parle pas assez, quoi.
Ouais, il y a des déceptions. Il y a plein de déceptions. Je disais, moi, j'ai postulé un incubateur il y a un mois. J'ai été jusqu'à la phase finale, mais je n'ai pas été prise, quoi. Puis avant, je n'avais pas été prise non plus. Et puis bon, c'est génial parce que 2 semaines après, d'un coup, il va y avoir un article qui sort sur le livre. Bon, c'est top, mais il faut tout le temps, en fait, se remotiver et accepter la déception et accepter qu'on souhaite. Triste, quoi. Triste, dégoûté, en colère, c'est pas juste.
Et qu'est-ce qui te fait tenir, justement ?
Alors, du point de vue très terre-à-terre, je suis soutenue par le Pôle emploi. Donc, ça me permet aussi de me dire, tu peux tout donner, tu peux investir, etc. T'as pas à te poser la question de « j'ai pas d'argent à la fin du mois ».
Ouais.
Donc ça, faut pas se leurrer, mais le compteur il tourne, hein. Le tic-tac, ça va forcément un jour.
Ça va.
Voilà, et donc on a déjà bien entamé. Après, c'est un métier qui me passionne. On m'aurait demandé de faire la même chose pour vendre des trombones. Je crois que je n'y mettrais pas la même énergie.
Ouais.
Donc voilà, j'y crois vraiment. Les retours des gens, le fait de voir qu'il y a des gens à qui... Enfin, les retours sont toujours positifs. J'ai jamais personne qui m'a dit oh, c'était nul, j'ai détesté. Après, je sais que je ne m'adresse pas au grand public non plus. C'est des gens passionnés de pâtisserie ou très curieux. Enfin, voilà, y a
ouais,
tout
c'est une
un...
cible très précise. Hein, ouais.
Voilà.
Des passionnés de pâtisserie déjà.
Et puis après, c'est ce qui fait tenir, c'est les retours, c'est la passion, c'est les gens qui encouragent, c'est partager, de temps en temps dire en fait ça va pas quoi. Et puis de décrocher des nouveaux marchés, des trucs qui tombent un peu du ciel parce que quelqu'un a bien aimé le projet, on a parlé à un pote qui faisait un team building et boum, bah on sort un truc, mais c'est pas donc c'est jamais 100% ascendant quoi. C'est toujours ça
Ouais.
monte, puis ça redescend, puis
Ça
ça remonte,
redescend,
puis
oui,
ça
c'est
redescend.
ça.
Et
C'est les montagnes russes.
non, mais je pense que c'est l'image qu'on voit souvent et ça reflète bien les choses quoi. Après, il faut être bien entouré, faut avoir des traits de personnalité, peut-être de la persévérance, ouais, rien lâcher. Mais ouais, c'est pas tous les jours que je suis en mode pump it up, tout va bien. Hein. Pas du tout.
Oui, bah oui, j'imagine. Je pense
Puis il y
bien,
a des trucs.
je vois très bien ce que tu veux
Tu
dire.
sais ce que c'est. Et
Oui,
puis il y a
oui,
aussi y a un côté de truc insupportable. Moi, je déteste la compta et je n'aimerais jamais ça. Et
oui.
ça me tue de devoir payer
Oui.
pour ce truc et en plus que je
Quelqu'un, quelque
déteste.
chose. Oui.
Voilà. Et
Bah.
là, et puis oui, y a des trucs vraiment super, super pénibles. Donc ce que j'adorerais, c'est avoir eu à un moment une idée avec quelqu'un et m'être lancé à deux. Mais c'est.
Oui, parce que la solitude aussi, ça peut être pesant.
Ouais,
Totalement.
ouais. Alors en ce moment, j'ai une stagiaire, une apprentie, j'ai une autre stagiaire qui arrive lundi.
Ah,
Donc ça,
ça
c'est
va.
chouette, mais bon, c'est des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Je crois que là, j'ai ma première stagiaire née au 21e siècle qui
Ouais.
arrive. Toutes les autres étaient encore nées en 99, donc ça allait pour mon moral. Là, ça me fait un peu bizarre. Mais donc c'est du sang neuf, mais c'est pas des personnes qui peuvent vraiment m'aider à me rassurer en fait.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ils sont là pour aider, mais pas, il y a ouais, le fait de se sentir rassuré, de pouvoir échanger sur les problématiques qu'on a au
Oui,
quotidien. Il faudrait
voilà.
quelqu'un comme un associé, quoi.
Oui, voilà. Et j'ai des associés, mais qui sont minoritaires et qui sont plus en mode conseil, donc je vais pouvoir appeler sur certaines choses, parfois un petit peu plus opérationnelles, mais qui vont avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait, qui vont aussi m'encourager, tout ça, mais qui vont pas être là en train de me dire, bah, dans ton tableau Excel pour la BPI, non, il faut que tu mettes ça.
Oui, c'est pas leur
En
rôle. Oui.
fait. C'est pas eux qui vont venir pitcher avec moi, c'est pas eux qui vont venir sur le plateau de télé avec moi. Bon, après, il y a des exercices que j'aime bien faire, tu vois, j'aime bien parler comme tu as pu t'en rendre compte. Et je suis pas quelqu'un de timide, donc ça, c'est
Oui,
pas
tu
la
n'hésites pas à
difficulté.
y aller, quoi. Donc, on le sent que t'es passionné par le projet, que tu n'hésites pas justement à le vendre. Y aller. Justement, est-ce que au niveau de ton positionnement, justement, les entreprises B2B seraient pas peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus à creuser en termes de chiffre d'affaires et
Si, si, mais on le creuse beaucoup. Hein. On le creuse beaucoup.
Ça
On a
revient là
beaucoup d'offres.
maintenant après
Oui,
confinement et
oui,
tout
oui.
ça.
Depuis l'année dernière, depuis automne, j'ai recommencé à faire pas mal de team building. J'en ai qui sont programmés déjà pour l'automne. Voilà. Et c'est vrai que clairement, c'est du volume d'affaires qui rentre de manière plus importante. Hein. Tout de suite, tu as 10 personnes au lieu d'avoir 2 personnes que tu promènes. Voilà, c'est ça qui m'a permis de faire des investissements en permanence pour la boîte. Moi, je ne me rémunère pas et tout ce qu'on gagne repart dans des relations presse, dans du développement SEO. Aujourd'hui, on travaille sur le site, sur le développement de l'application mobile et moi, je cherche par tous les moyens à faire rentrer des fonds. C'est pour ça aussi qu'on fait la campagne de crowdfunding. Je suis pas dans une logique de levée de fonds. Parce que si un truc que j'ai retenu d'une formation, c'est que l'argent de mes clients est meilleur, je trouve, que... Enfin voilà, moi je préfère avoir des vendre des choses, avoir des activités et le réinvestir. D'accord. Plutôt que de faire... Voilà, moi, tant que je voudrais fonctionner sur ce modèle-là, qui, selon moi, est plus pérenne parce qu'il démontre que tu as un business, en fait, existant. Mmh. Et je me sens pas du tout en phase avec la Startup Nation de j'ai levé un... Et où, finalement, c'est quoi la pérennité, quoi ? Est-ce qu'il y a une rentabilité réelle autre que de faire juste rentrer des gens, quoi ? Et je sais pas si c'est une question. Ouais. Totalement. Je sais pas si c'est une question d'âge ou quoi. Mais je me sens pas du tout en phase avec cette espèce de microcosme en ce moment de start-up. Bon, déjà parce que je suis pas spécialement dans la tech.
Oui.
Enfin, même pas du tout. Et là, on développe une application mobile. Donc, ça va me mettre un pied dans la tech. Mais la finalité, elle n'est pas tech, elle est expérientielle, en fait.
Non, pas du tout dans le domaine, donc c'est encore autre chose. Et ouais, je comprends très bien l'envie de rester indépendante, plutôt de s'autofinancer.
Je pense que c'est plus sain, en fait, hein, quand même.
Ouais, ça reste sain, c'est sûr. On sait au moins dans quoi on met notre argent et enfin c'est le nôtre, quoi. C'est quelque chose qui a été gagné, qu'on réinvestit. C'est pas celui d'investisseur extérieur.
Ou à moins que ce soit effectivement des gens qui s'investissent vraiment, mais pas que financièrement, c'est-à-dire qu'ils viennent s'associer opérationnellement à 100%. Et là, là c'est différent, mais là c'est un mariage, quoi.
Oui, carrément, c'est autre chose.
Donc c'est compliqué quand même.
Justement, tu parlais juste, pour revenir rapidement, sur le livre. Tu as écrit le livre « Comment j'ai dégusté mon gâteau » avec le chef Mathieu Dalmier. Donc ça, c'est un livre que tu as écrit donc, pendant le confinement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? C'est aussi une façon en fait, de faire connaître l'activité. C'est pour ça que tu l'as écrit ?
Oui, en fait, c'est vraiment, encore un podcast. Cette fois-ci, j'étais en train de courir dans mon kilomètre autorisé pendant le deuxième confinement. Et j'ai écouté un podcast sur Victoire Lou, qui est une autrice journaliste qui a écrit un livre qui s'appelle, je crois que ça s'appelle À la maison, qui était un recueil de recettes de chefs confinés. Et voilà, elle expliquait comment elle s'était auto-éditée et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Et je suis rentrée et j'ai dit à mon mari, qui est aussi un de mes associés, je devrais écrire un livre sur la pâtissologie pour faire connaître la pâtissologie, en fait, parce que quand t'écris un livre, ça te légitime, en fait, ça prouve que t'as quand même rassemblé les savoirs dont tu parles dans un endroit, c'est quand même un gros boulot, ça apporte quelque chose, quoi. Et il me fait, bah oui, mais bon, comment tu vas faire ça ? Je dis, bah, je sais pas, je vais m'auto-éditer, j'en sais rien. Et il se trouve qu'on connaît quelqu'un qui travaille dans l'édition et à qui j'ai parlé de mon projet, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle faisait vraiment dans l'édition. J'avais pas du tout. En fait, entre voisins, on ne se parle pas forcément de ce qu'on fait dans nos jobs respectifs. On sait qu'on bosse dans tel et tel domaine, mais ça s'arrêtait là. Mais il se trouve que cette personne a pu en fait me mettre le pied à l'étrier et me faire rencontrer l'éditrice qui s'occupait de la partie food, à qui j'ai en gros pitché mon idée et qui m'a dit go, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance.
De réaliser ce que tu voulais.
Et qui m'a dit, on pense que c'est une bonne idée. Et c'est vrai qu'à la fin de cette discussion, moi, je voulais juste avoir des infos sur le monde de l'édition. Et la personne m'a dit, non, mais on trouve ça chouette. Et on veut t'éditer. Et c'est beaucoup de chance parce que je me rends compte des personnes qui ont déjà des projets hyper aboutis, des livres écrits, et qui galèrent vraiment beaucoup pour trouver un éditeur. Moi, ça s'est fait un peu dans l'autre sens. Et pour moi, la leçon à retenir de ça, c'est qu'il faut parler de ses idées, quoi.
Parler
tout le temps.
Autour de soi,
faut pas avoir peur qu'on nous les pique, parce qu'en fait c'est une chose d'avoir une idée et c'est une chose de la mettre en action. On a signé, c'était en novembre 2019 et le livre est sorti en octobre c'était en novembre 2020 et le livre est sorti en octobre 2021. Et entre-temps, ben, du coup, à la fin d'un cours de pâtisserie en ligne avec Mathieu, je lui ai dit, tiens, tu sais, en fait, j'ai parlé de mon truc à un éditeur, ça l'intéresse, tu voudrais pas me donner un coup de main sur les recettes? Et il m'a dit, ben ouais. Puis voilà.
Le partenariat s'est fait comme ça avec Mathieu, donc il a aidé donc, sur le livre, sur la partie recette.
Et du coup, moi, j'avais pensé à... Voilà, le concept du livre, c'est faire découvrir la pâtissologie, mais illustrer la méthode avec des gâteaux. C'est-à-dire, pour expliquer les odeurs, on va prendre la tarte tatin. Pour expliquer le bruit, on va prendre le millefeuille. Et du coup, après, c'était aussi un travail de construction avec l'éditeur. Moi, j'avais une idée, on a un petit peu évolué dans la construction. Et maintenant, c'est comme ça. Donc, il y a une partie sur la science et les émotions. Et ensuite, il y a toute une partie qui découle les sens les uns après les autres. Et au fur et à mesure, on explique par une pâtisserie. Donc, il y a 20 pâtisseries qui sont décortiquées de cette manière. Et à chaque fois, on va donner la méthode, expliquer l'histoire de ce gâteau, décrypter la dégustation. Donc, je refais la dégustation, donner les bonnes adresses pour ce gâteau et le bon moment aussi pour le déguster. Il y a un référentiel de dégustation qui est à chaque fois décliné pour chacune de ces recettes. Et il y a la recette de Mathieu. Donc, on trouve
en fait, ça reprend l'opéra,
le Saint-Honoré.
C'est ça, ça reprend le concept de pâtissologie autour des sens, autour des cinq sens.
Exactement. À la base, moi, je voulais l'appeler « Précis de pâtissologie », ce livre. Mais c'était peut-être un petit peu compliqué, donc on l'a revu. Et puis, du coup, ça a été aussi un travail d'équipe, puisqu'il y a un photographe, David Jappy, qui a fait les photos des gâteaux de Mathieu. Et ce sont tous de vrais gâteaux qu'on a mangés, hein, c'est pas du faux.
je les ai tous mangés.
Tout à fait. y a une styliste culinaire, Garlone Bardel, qui a apporté aussi... On voulait vraiment que le gâteau, les produits, soient au centre, donc il n'y a pas de vaisselle, il n'y a pas de choses pour détourner l'attention. C'est vraiment le produit à l'état brut, enfin le gâteau, qui est le centre de tout. Et également une illustratrice, Cécile Wang, que j'avais repérée en 2018 sur Instagram. Et voilà, c'est elle qui a fait les illustrations des parties où on parle de la pâtissologie.
D'accord.
Et voilà, donc c'est un livre un peu particulier parce que c'est pas un livre de cuisine, enfin c'est pas un livre de pâtisserie, c'est pas juste un livre de dégustation, c'est un peu hybride.
C'est hybride, oui. C'est intéressant parce qu'on y retrouve toute la partie sur les sens et en même temps la manière dont on doit déguster un gâteau après une fois avoir fait la recette.
Exactement. Oui, parce qu'il y a pour moi, il y a des gâteaux qui, par exemple, un Paris-Brest, pour moi, c'est pas un gâteau de fin de repas. Parce qu'il faut avoir faim pour manger un Paris-Brest. Parce que c'est quand même un peu lourd, hein, ou gourmand, comme certains disent, pour pas dire gras, etc. Et donc, si on veut vraiment l'apprécier, il faut pas avoir l'estomac plein, quoi. Donc, moi, je dis, un Paris-Brest, c'est un tea time. C'est installé confortablement, voilà. Et par contre, un croissant, oui, ça se mange dans la rue et ça se mange pas avec une fourchette et un couteau. Donc, après, c'est toujours mon opinion hein, que j'exprime comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens quand même qui se sont retrouvés là-dedans et j'ai régulièrement des retours sur les réseaux sociaux de gens qui m'ont dit « Ah, on a bien aimé ce côté sensation. » Voilà, c'est un livre original.
Mais c'est quoi ta pâtisserie préférée, justement ?
Eh ben, c'est le Paris-Brest.
Ah, c'est le Paris-Brest, d'accord.
Ouais.
Ok.
J'adore.
T'en as un en particulier, d'un pâtissier en particulier ou...
Bon, alors évidemment, je suis obligée de dire celui de Mathieu Dalmet, hein, en numéro 1, ex aequo, avec Yann Couvreur.
D'accord. J'avais goûté celui de Philippe Contecini, que j'avais adoré à l'époque quand il était à la pâtisserie des rêves.
Bon, c'est un très bon choix, mais on ne le retrouve plus celui-ci. Ouais. Parce que la pâtisserie des rêves n'existe plus. Et, ouais. Mais il a vraiment redoré le blason du Paris-Brest, Philippe Contecini.
Ah, complètement.
Parce que j'étais vraiment désuet. Et là, avec l'insert praliné, Moi, j'adore le praliné. J'en fais moi-même avec plein de types de fruits secs. J'adore ça. Et l'insert praliné, c'est ce qui fait tout. Et dans celui de Yann Couvreur, il y a un insert praliné très croustillant. Ça apporte beaucoup de texture. C'est vraiment... mon préféré ex aequo, je fais attention à ce que je dis. Mais voilà. Et du coup, dans la recette de Mathieu, on a beaucoup insisté sur la texture parce qu'il est dans le chapitre sur le toucher.
D'accord,
et très bien. Voilà, il est vraiment très bon ce pari. Ouais.
Bon ben, j'invite les auditrices à aller goûter les deux. Alors.
Ouais, il ouvre
celui de Mathieu, de Yann.
Voilà. Il ouvre en septembre à Avenue de Clichy dans le 17e.
D'accord.
Donc, on peut donner rendez-vous à toutes les gourmandes et elles peuvent déjà réserver leur pâtisserie parce que c'est une de mes contreparties du financement participatif. C'est mon instant publicité.
Oui, bah oui, parce que tu es en pleine campagne. J'ai vu
ouais.
Le crowdfunding donc pour faire plus de parcours, c'est ça? Et
oui.
Des parcours digitalisés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des parcours digitalisés?
Eh bien, ça veut dire qu'au lieu d'être avec moi pour faire un parcours, les gens pourront en fait commander à travers, enfin, sur l'ordinateur. Et ensuite, ils arriveront sur une interface qui leur permettra de choisir quel parcours ils veulent faire, quelle durée,
D'accord.
quel type de gâteau. Et les gâteaux seront précommandés, réservés pour eux. Et ensuite, en autonomie, ils auront un créneau pour commencer leur parcours, mais en autonomie, ils pourront faire le parcours guidé par le téléphone. Au lieu de m'avoir
D'accord.
moi avec eux, ils m'auront moi dans le téléphone.
D'accord,
Et
c'est
voilà.
l'application en fait sur laquelle vous
Exactement.
travaillez.
Voilà, mais c'est
D'accord.
pas une application qui se téléchargera sur Apple Store, etc. Ce sera lié directement avec leur commande, parce que bon, installer une application, c'est toujours un peu pénible pour les consommateurs, surtout quand on fait pas ça tous les jours. Donc l'idée, c'est après, mais vraiment d'avoir une expérience digitale avec des vidéos, avec des explications de ce qu'on va manger, mais de le faire en autonomie, un peu à son rythme, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de passer 2 heures avec moi, en fait. Ils vont se dire, elle est vraiment saoulante. Et non, on
Non,
veut
mais
notre
si tu leur apprends
tranquillité.
plein de choses sur la pâtisserie, donc ils sont toujours contents d'en savoir
Oui.
plus, hein. Et d'ailleurs,
Mais
si tu peux nous rappeler le tarif, c'est combien justement un parcours
alors, un
il y a...
parcours en physique, aujourd'hui, c'est à partir de 50 euros par personne hein, quand on est dans un groupe. Et ça va jusqu'à 180 euros pour 2 personnes quand c'est privatisé. C'est-à-dire que là, les gens sont sûrs de n'être qu'avec moi. Et à l'avenir, les parcours digitalisés, ce sera aux environs de 39 euros pour 3 pâtisseries, mais il y aura des formules avec moins aussi. Et aujourd'hui, sur le financement participatif, les gens peuvent. Il y a un nombre limité, mais le parcours est proposé à 25 euros pour le moment pour le lancement sur la campagne. Ça va me permettre aussi de multiplier le nombre de parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis limitée par le physique. Mais voilà, on va en faire d'autres sur Paris et surtout, on va aller dans d'autres villes. Donc, il y a Lille qui est au programme, Lyon, Marseille, Nantes. Nancy, Bordeaux, ça va me permettre d'ouvrir en fait tout ça à plus de monde.
D'accord, le fait de le digitaliser, effectivement, ça va te permettre d'être présente d'une
Ailleurs.
façon ailleurs.
Voilà, parce que comme je dis dans la vidéo du crowdfunding, on a essayé de me dupliquer, de me cloner, mais c'était pas viable pour ma famille. Donc on a laissé tomber.
On a fait autrement.
Oui, voilà.
D'accord, bah merci beaucoup Marion. Bah, on arrive vers la fin. Je vais te poser les questions que je pose aux personnes que j'interviewe. Alors, quels sont tes prochains défis pour l'année 2022, justement? On
Eh
en a un peu parlé là,
bien,
hein, parce qu'il y a pas mal de choses là.
en octobre 2022, il faut que mon application soit live. Là, elle est en train d'être développée.
D'accord,
Euh,
donc,
ce
ouais,
sera un peu.
ça arrive vite, hein.
Ouais, mais on a déjà bien avancé. Donc, voilà. Fin d'année, il faut que tout ça soit opérationnel et j'aimerais bien qu'on ait lancé au moins une autre ville que Paris. Donc, je me fixe en tête Lille parce que je sais exactement quel parcours je pourrais faire et qu'en plus, je suis pas du tout du Nord, mais je trouve que cette ville est incroyable et que les gens sont tellement sympas que ce serait génial d'avoir ça là-bas. Donc voilà, puis d'avoir plus de chiffre d'affaires qu'en 2021. Voilà, un autre défi.
D'accord, bon, on te le souhaite, hein. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire?
Alors, de ce côté-là, je suis un peu midinette. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup depuis longtemps, c'est Mathilde Lacombe,
Ah
qui n'est pas du tout dans le même domaine, hein, qui est dans la beauté. Mais c'est quelqu'un que je suis depuis qu'elle a son blog La Vie en Blonde, qui n'existe plus. Elle n'avait même pas d'enfant à l'époque. Et ça fait très midinette parce que c'est des trucs de beauté, maquillage et tout. Mais je la trouve très inspirante. Bon, parfois, elle a un côté très parfait qui me rend jalouse et des fois, je me dis, j'adore la détester, en fait. Mais je trouve que elle en fait pas trop. Elle monte quand même le chemin. Elle a su changer de voie. Elle a une vision de l'entrepreneuriat et aussi, elle a l'air d'avoir vraiment un nez et un goût très sûr pour les choses qui vont marcher.
Ouais.
Et voilà, il y avait Jolie Box au début, le succès des box maintenant, voilà, on le connaît. Là, elle est sur la partie complément alimentaire, beauté. Et...
Avec
donc, ouais,
M.
Voilà, M Skincare et je suis une cliente de la première heure. Voilà. Bon, des fois, je me dis qu'elle est trop parfaite, mais je la trouve inspirante quand même.
Oui, elle est très inspirante. Ouais. J'aime beaucoup son parcours aussi, le fait de repartir à zéro après avoir déjà créé une boîte qui a un succès. C'est vraiment très...
Et c'est des bons produits, en fait, ce qu'elle fait.
Oui, en plus, oui.
C'est pas du bullshit, en fait.
On sent que c'est de la qualité, quoi. On sent qu'elle y a mis vraiment un investissement en termes de qualité, parce qu'elle-même donc, souffrait de problèmes de peau, donc elle avait cette exigence au moins de se soigner elle et de partager en tout cas avec les autres femmes.
Exactement, ouais.
Est-ce que tu as un conseil donné pour une femme, donc, justement, qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui est déjà dedans et qui...
Vas-y, fonce, on sait jamais sur un malentendu. Ça peut marcher. Non, plus sérieusement, un conseil, d'être bien entouré. D'être bien entouré. Et oui, et d'être bien entouré et de parler de son idée, en fait. De pas faire de secret. En fait, il y a beaucoup de choses qui marchent par le réseau, par quelqu'un qui va penser à quelque chose, on parle de son idée. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn. Est-ce que je peux t'appeler? J'ai un conseil à te donner et tout. Hyper chouette, en fait. Parce que j'ai dit, je fais un crowdfunding, il y aura ça. Ben, super pression, en fait, d'avoir ce conseil. Donc, les gens qui disent, ah non, je ne parle pas de mon idée parce qu'on va me la piquer. Non.
Ouais.
Ça, c'est pas vrai. Les gens piquent pas les. Et puis, dans l'absolu, en fait, qui réinvente vraiment des choses tous les jours? Voilà, on est tous à s'inspirer, tout le monde. Malheureusement, il y a des Steve Jobs, il n'y en a pas à tous les coins de rue.
Non, c'est sûr.
Voilà, moi j'ai inventé la pacissologie, mais l'œnologie ça existe. Le mot n'existait pas mais pour la pâtisserie, mais des gens qui font des dégustations de gâteaux, même dans la rue, un peu sur le même principe, ou pas forcément que de gâteaux, ou des gens qui décryptent sur Instagram ce qu'ils ont goûté, il y en a plein, en fait. C'est la façon dont on fait qui va changer, voilà. Donc,
c'est ça, ouais. C'est ta façon à toi, c'est ta touche à toi, en fait, qui fait que ça va changer la chose et que les gens, ils vont s'identifier.
Exactement. Donc, et il y a de la place pour tout le monde et s'il y a de la concurrence, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un marché.
Totalement.
Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, partout, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité, quoi. Quand on te demande s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas possible, en fait. Ou alors, il faut changer d'idée, quoi.
C'est ça. Si on est tout seul, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ?
Il y a une phrase que j'aime bien, mais c'est pas vraiment ça qui m'accompagne, mais c'est Émile Zatopek, le coureur à pied, parce que je fais de la course à pied. Enfin, j'en faisais plus avant, mais qui disait, si tu veux courir, cours un kilomètre, et si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Et pour avoir vécu ça, je peux dire que ça change la vie, effectivement. Et ça change complètement le mental. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre l'entrepreneuriat et le marathon.
Ouais,
parce
le
que
sport,
oui.
Le sport, même en général, mais c'est ça.
Voilà, il faut se former, il faut s'entraîner, il faut remettre beaucoup de choses en question. Il faut savoir se lever le pied quand il faut ralentir. Il faut se soigner de temps en temps. C'est un sport individuel, mais très communautaire, parce qu'on n'est jamais tout seul sur une course. Et moi, je l'ai vécu plein de fois, des moments, des coups de mou, un gars que je connais pas sort de nulle part et me dit « Allez, non, on finit ensemble et tout. » Donc, et puis voilà, faut tenir la distance, quoi.
Donc, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment un parallèle avec le sportif,
ouais.
Mentalement.
Bon, oui, ça change vraiment les choses.
Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu recommandes souvent?
Alors, un livre que je recommande beaucoup en ce moment, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais je suis très féministe et je l'affirme, mon féminisme engagé. À mon échelle, hein, je ne suis pas dans une asso ou quoi, mais je fais en sorte que les choses évoluent à mon échelle. Et donc le livre de Lorraine Bastide s'appelle Présente. Je le trouve très bien. Il est très dur. Je ne spoilerai pas la fin, mais il est très dur. C'est la réalité des chiffres. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier. C'est sur la présence des femmes dans la société. Et quand j'avais fini ce livre, j'avais envie de descendre dans la rue avec une pancarte et d'aller défiler. À mettre dans plein de mains. Il y a un autre livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Feminist in Progress, qui est une BD. Et je pense que c'est à mettre très tôt dans les mains des ados. Et ouais, pas que des filles, en fait.
Pour les sensibiliser, bah oui, justement.
Ouais.
Si on veut que ça progresse, il faut justement sensibiliser beaucoup aussi les garçons.
Ah oui, c'est vraiment une question... c'est pas juste un problème de femmes. Hein,
non, pas du tout.
La place des femmes dans la société. Donc voilà, donc c'est la petite touche de féminisme pour finir. À l'heure où on a une première ministre, ça avance, mais il faut que tout le monde continue à se battre.
Exactement. Merci beaucoup, Marion. Si on veut t'écrire, ça se passe où?
Alors, on peut m'écrire directement sur marion@honorezvousguide.fr. Ça, c'est mon mail. Sinon, sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est honorezvousguide. Sur LinkedIn, c'est LinkedIn, c'est Facebook. C'est déjà pas mal. Allez voir mon site web honorezvousguide.fr. Et puis, en ce moment, je sais pas quand tu diffuseras, mais peut-être que la campagne de crowdfunding sera encore active, donc...
Je mettrai le lien dans le descriptif.
Ouais. On finira mi-juin, fin juin, donc je pense.
D'accord.
Donc tout est important d'en parler, la moindre contribution, même 5 euros, c'est important, donc là c'est là-dessus le focus en ce moment.
Pour se soutenir.
Ouais, voilà, exactement. Je te remercie en tout cas. De tes questions, c'était hyper intéressant. Ça fait toujours une espèce de remise à zéro quand on rappelle son parcours, etc. On se dit, ah oui, finalement,
On a fait pas mal de choses. On se rend compte à ce moment-là que on a parcouru quand même pas mal de chemin, en fait, et de kilomètres, et on a fait des choses. Hein.
Ouais, et on a tendance, en tant que femme, on a tendance souvent à oublier tout ce qu'on a fait et à se dire, ah oui, mais il faut que je fasse encore plus de ça, j'ai pas fait et tout.
Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de fêter ces petites victoires à chaque fois sur cette longue route qui monte et qui descend, on va dire.
Exactement. Donc, faut pas oublier tout ce qui a marqué sur le kilométrage, hein, comme dans la voiture.
C'est ça.
Et il y a plein de choses. C'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire naturellement. Donc, c'est bien de se poser de temps en temps comme ça avec toi. C'était vraiment très sympa, en tout cas.
Merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, oser. Oser être indépendante le plus possible. N'hésitez pas.
Ok. Merci beaucoup, Marion.
Je t'en prie. Merci, Fatima. Et plein de bonnes choses pour la suite aussi pour ton podcast.
Merci. Vous êtes encore là? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous !